Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi et à nos confrères qui interviennent dans la tribune de la presse de ce soir. Trois sujets sont au menu de cette émission. La publication des résultats partiels et provisoires de l'élection présidentielle du 29 octobre 2006. La contestation ayant suivi cette publication par l'Union pour la Nation, plateforme soutenant la candidature du vice-président Jean-Pierre Bemba. Enfin, l'ouverture hier à La Haye, aux Pays-Bas, des audiences de confirmation de charges ou accusations porté contre Thomas Lubanga, ancien chef de la milice Union des Patriotes Congolais, UPC, une milice de l'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo. Trois confrères et une consoeur ont répondu présents à l'émission de ce soir. Nancy Odia, directrice des informations de Congo Web, une chaîne de télévision émettant ici à Kinshasa. Herbert Kadiediem, directeur de programme de Kasaï Horizon, une chaîne de radio-télévision émettant à partir de Mbujimayo Kasaï Oriental. Patrick Mouyaya, directeur des informations de CBS, une chaîne de télévision émettant à partir de Kinshasa également. Enfin, un confrère qui intervient de très loin des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Ferdinand Ferreira, qui travaille à la Voix de l'Amérique, une station de radio émettant à partir de Washington, aux États-Unis d'Amérique. Comme je le disais en titre, dans la première partie de cette émission, nous nous pencherons d'abord sur la publication des résultats partiels et provisoires de l'élection présidentielle du 29 octobre dernier. Hier, la CEI a publié quelques résultats provenant de 10 provinces, notamment Kinshasa, le Bas-Congo, le Bandundu, l'Équateur, le Kasaï Oriental, la province orientale, le Katanga, le Nord-Kivu et le Maniema. D'abord, je m'adresse à Ferdinand Ferreira. Est-ce que vous pensez que cette publication des résultats se fait un peu plus vite qu'au premier tour?
Écoutez, on a l'impression ici qu'elle se fait à peu près au même rythme qu'au premier tour et que c'est un petit peu le même schéma aussi qu'au premier tour, à savoir on commence par diffuser les résultats de l'Est et puis ensuite on vient à l'Ouest et puis alors évidemment comme on commence par les circonscriptions de l'Est, le président sortant a une large avance dès le début, mais ensuite cette avance se rétrécit à mesure qu'arrivent les bulletins de vote qui ont été dépouillés à Kinshasa, au Bas-Congo et dans les deux Kasaï. Donc oui, c'est peut-être un petit peu plus rapide, je ne suis pas très sûr, mais en tout cas c'est un peu le même schéma qui se passe.
Puisque vous parlez des résultats de l'Est du pays, certains membres de l'Union pour la Nation ont estimé que cette publication était ciblée, c'est-à-dire en faveur de leur adversaire politique qui a réalisé de bons résultats, notamment à l'Est du pays. Nous sommes dans cette situation également avec Nancy Odia, vous êtes directrice des informations de Congo Web. Est-ce que vous êtes du même avis?
C'est vrai que c'est la structure ou la procédure qui a un peu changé. Cette fois-ci, il y a une commission qui a été mise en place. Cette commission tripartite au sein de laquelle se retrouvent des délégués de deux candidats, la AM, la CEI, et donc pour confronter les résultats. C'est vrai que ça avance vite au niveau de la compilation, mais lorsqu'il faut faire la confrontation des données, c'est là que ça semble un peu traîner parce qu'au niveau de la compilation, on a pratiquement fini. Hier, on en était à 41 000 bureaux de vote dont les résultats étaient déjà compilés. Et donc aujourd'hui, on doit certainement avoir avancé. Mais au niveau de la publication, il faut attendre que les deux parties se mettent d'accord pour voir s'il n'y a pas d'erreur par-ci, par-là, avant de mettre les données sur Internet. C'est vrai qu'au niveau de la publication, c'est le même rythme, mais la procédure a fait que ça avance peut-être au même rythme, mais de façon différente.
Mais concernant cette publication ciblée, accusation de l'Union pour la Nation...
Moi, j'ai remarqué que depuis le début, on publie les résultats de manière éparse, c'est-à-dire il y a des résultats de l'Est, il y a le Bas-Congo. Je me rappelle que dimanche dernier, il y avait des résultats même du Bas-Congo, des résultats des Guado, je crois. Il y avait quand même des circonscriptions de l'Ouest dont on avait les résultats. Les 12 premières circonscriptions dont on avait les résultats étaient des différentes parties du pays. Je suis pas de cet avis.
Je m'adresse maintenant à vous, à Patrick Mouyaya, directeur des informations à CBS. Est-ce que c'est vraiment délicat? Comment alors choisir si les résultats de telle ou telle partie du pays sont prêts? Est-ce que c'est quand même assez délicat de la part de la CED de commencer par telle partie du pays au risque d'être accusé par telle plateforme, d'avoir commencé par telle partie du pays, pourquoi pas par telle autre partie?
Moi, je pense que de ce point de vue, la commission électorale indépendante essaie de faire son travail. Elle travaille en toute souveraineté aidée par sa constitution. On sait qu'il y en a de ceux qui sont venus du mouvement de libération du Congo ou de l'Union pour la Nation, de Capressier, et de certains membres de cette institution d'appui à la démocratie qui sont sortis de la famille proche de Joseph Kabila. Si la commission électorale indépendante juge, par exemple, après avoir compilé les résultats, que les résultats, par exemple, de Walungu sont prêts et qui sont dans l'obligation de les afficher, puisque nous, de la presse, nous l'exigeons et le peuple congolais l'exige, la commission électorale doit le faire. Mais l'interprétation qu'on en fait des résultats, il faut reconnaître tout de même qu'à l'Union pour la Nation, ils sont en droit, de leur point de vue, à faire cette lecture de choses quand ils estiment, par exemple, que la commission électorale indépendante se précipite ou publie le plus des résultats qui viennent de l'Est plutôt que de l'Ouest. Peut-être pour eux, il serait bon de commencer par l'Ouest où leur candidat a un certain ascendant par rapport au candidat de l'Alliance de la majorité présidentielle et ils interprètent cette publication progressive des résultats de la CEI comme étant une préparation à une victoire du candidat de l'autre côté quand on fait prévaloir plutôt de gros chiffres à de l'Est qu'à ceux qui peut y avoir à l'Ouest mais que l'on préfère camoufler à tant d'autres jours. C'est l'interprétation, je présume, qui se passe à l'Union pour la Nation. Mais d'un point de vue global, la commission électorale indépendante fait son travail. Il y a un mécanisme qui a été mis en place, Nancy l'a dit tout à l'heure, entre UNAMP, CEIAM et la communauté internationale représentée par la MONUC. Si la CEI publie les résultats, c'est que l'Union pour la Nation l'a approuvé, l'Alliance de la majorité présidentielle l'a approuvé, qu'importe les régions du pays.
Voilà, on me signale que Herbert Kadiediem est déjà en ligne. Bonsoir Herbert Kadiediem.
Bonsoir Claude.
Voilà, vous êtes directeur de programme de Kassai Horizon, radio-télévision, et vous intervenez à partir de Mbujimayi au Kassai Oriental. Nancy Odia vient de nous dire que plus de 40 000 bureaux de vote ont déjà vu leurs résultats compilés par la CEI. Est-ce que vous estimez que d'ici, peut-être la CEI pourrait publier les résultats de l'élection présidentielle bien avant le 19 novembre?
Bon, je crois que c'est faisable, d'autant plus que la grande partie a été déjà traitée et publiée, ça c'est mon point de vue. Je voudrais dire que pour ceux qui concernent la publication des résultats, au-delà de tous les commentaires que les amis ont pu faire, que ce soit du côté de l'AMP comme de l'Union pour la Nation, j'estime que cette démarche est tout à fait normale, d'autant plus qu'elle ne viole pas la loi électorale qui est réglée pour l'élection dans ce pays. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et je présume que ça nous a permis aussi de briser quand même le silence, parce que si la CEI pouvait se proposer de ne pas publier les résultats jusqu'au 19, ça pourrait encore inquiéter davantage. Mais je crois aussi que le candidat a réalisé tel score dans telle partie du pays, dans telle circonscription électorale. Je crois que c'est une grande démarche qui ne viole pas la loi électorale.
Mais est-ce que vous pensez que le résultat pourrait être publié bien avant le 19 novembre?
Bon, je me suis allé d'abord très vite. Je n'imagine pas qu'au jour d'aujourd'hui, on pouvait déjà atteindre ce pourcentage. Je crois que tout dépend de l'institution qui est habilitée à publier les résultats. Mais j'estime que le gros du travail est déjà fait, qu'il est possible de le publier même avant le 19.
Ferdinand Ferreira, est-ce que vous pensez qu'il serait quand même avantageux de la part de la CEI de publier les résultats bien avant la date prévue du 19 novembre?
Écoutez, on a eu l'occasion de parler cette semaine à plusieurs membres de la CEI et parmi eux, il y avait notre ancien collègue confrère Delion Kimpounoumpou qui nous a confirmé qu'effectivement, il est possible que les résultats soient diffusés avant le 19 novembre. Mais ce qui est important surtout de souligner, c'est que ce n'est pas seulement la publication des résultats qui compte, c'est que la CEI en ce moment, en accord avec le SIAT et le gouvernement et plusieurs autres partenaires, essaie de gérer un petit peu la façon dont les résultats sont annoncés. Parce que tout le monde se rend compte qu'évidemment, la tension monte un petit peu avec Kinshasa, la nervosité monte un peu dans tout le pays à mesure qu'on s'approche de la publication des résultats. Et donc, il faut s'assurer que cette publication ne sera pas accompagnée de heurts et de violences, comme ça l'a été le cas la dernière fois. Donc c'est là-dessus, je crois, surtout qu'il faut faire porter son attention, à savoir comment ces résultats vont être annoncés et quelles dispositions vont être prises pour qu'il y ait une fin apaisée, je dirais, de l'opération de dépouillement des votes et de publication des résultats. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure le confrère sur le reproche que fait l'Union de la Nation à la CEI, c'est pas seulement d'avoir seulement publié les résultats de l'Est en premier, mais il parle surtout de tricherie, et ça c'est plus grave, je crois, et ça peut annoncer peut-être des futures contestations.
Exactement, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de cela.
Donc, évidemment, maintenant, il y a des recours pour cela. Il s'agit de voir comment ces recours vont être gérés. Mais c'est ça qui est important de souligner aussi. C'est que,
oui, on va parler de ça dans la deuxième partie de cette émission. Voilà, je reviens dans ce studio avec vous, Nancy Audi. Est-ce que vous pensez, comment on peut comparer les résultats qui sont déjà parus par rapport à ceux du premier tour?
Ben, cette fois-ci, il n'y a que deux candidats. C'est que ça facilite un peu les choses, ça avance vite. Au niveau de la compilation, on a moins de travail à faire. Mais il y a eu une nette amélioration de part et d'autre de la part des candidats. Il y a le candidat de l'AMP qui a aussi fait des améliorations par-ci par-là ou à l'ouest. Celui de l'UN également s'est amélioré à certains endroits, bien que pas beaucoup à l'est du pays, particulièrement au Katanga. C'est vrai que des parts et d'autres, puisqu'ils sont deux, contrairement au premier tour où ils étaient 33, les 15 millions ou 17 millions d'électeurs, on ne connaît pas encore le nombre exact de ceux qui ont voté, devaient se partager entre les 3 et 33. Cette fois-ci, c'est deux seulement, donc c'est normal qu'il y ait des améliorations des parts et d'autres. Il y a eu aussi les alliances conclues par-ci par-là qui ont joué, semble-t-il, même pas un grand pourcentage, mais ça a quand même un peu joué. Puisque si aujourd'hui à l'Est, l'UN a un pourcentage un peu plus amélioré par rapport au premier tour, et qu'à l'Ouest, c'est pareil également pour le candidat Kabila, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu amélioration.
Voilà, Patrick Mouyaï, est-ce que vous pensez que les alliances ont quand même beaucoup joué pour que les deux candidats améliorent leur score dans une ou l'autre province?
Les alliances ont joué, mais pas suffisamment, ça c'est mon point de vue. Par exemple, il faut prendre l'exemple du candidat de l'alliance pour la majorité présidentielle dans la province de l'Équateur, où il s'est fait un allié, et nous avons vu comment l'alliance a été tissée et quelle importance on a donné, par exemple, du côté de l'AMP à Nzanga Mobutu et son idémon. Nous avons vu, s'est constitué autour du président Kabila, de noms non moins négligeables de la province de l'Équateur, comme les Ndundu Bonongue. Mais les résultats qui sont sortis, le crédit que de 5%, ce n'était pas suffisamment, mais bon, c'est une nette amélioration quand même par rapport au candidat, au résultat qu'il a pu obtenir au premier tour. En parlant d'alliance, on revient encore sur l'alliance Corée-Katissé, les présidents de l'AMP, Joseph Kabila, avec les patriarches Antoine Gizenga. La discussion qui a eu il y a quelques jours, et on disait que l'hypothèse d'un report total de voix n'était pas très envisageable, et ce sont les chiffres qui les prouvent, puisqu'il y a du moins jusqu'à preuve du contraire, le chiffre publié par la commission électorale indépendante donne Jean-Pierre Bemba vainqueur dans la province du Bandundu. Pas toute la province, puisque tous les résultats ne sont pas encore connus, mais dans beaucoup de villes, c'est Jean-Pierre Bemba qui mène la file, contrairement à ceux qui auraient cru que le Bandundu basculerait totalement pour Joseph Kabila. Mais en revanche, on remarque que le candidat de l'AMP améliore son sort à l'ouest du pays, à Kinshasa, dans les Bas-Congo, et c'est exactement ce qui arrive au candidat de l'Union pour la Nation dans les provinces du Kassai. On a vu le chiffre en grossir justement à ce propos.
J'en viens à vous, Ferdinand Ferrella. Je rappelle que vous intervenez, vous êtes journaliste de La Voix de l'Amérique, et vous intervenez depuis Washington aux États-Unis. Est-ce que le report de voix, les différentes alliances ont fait que l'un ou l'autre candidat améliore son score dans l'une ou l'autre province du pays?
Nécessairement, les deux candidats améliorent leur score, puisque évidemment il y avait 33 candidats au premier tour, il n'y en a plus que deux au deuxième, donc ils améliorent leur score, que ce soit le président Kabila à l'Est, ou dans certaines circonscriptions, il obtient 99% des voix, alors qu'il avait eu 80, peut-être 90% au premier tour. De même, Jean-Pierre Bemba fait des gros scores, d'après les chiffres que j'ai vus au Bas-Congo. Dans les deux Kassai également, en raison d'une participation plus importante qu'au premier tour. Mais ça, c'est un petit peu normal que les deux candidats fassent un meilleur score. Au bout du compte, évidemment, il y aura 100% à se diviser entre deux candidats et pas 33. L'important, évidemment, c'est de voir qu'est-ce que ça donnera au niveau national.
Voilà. Oui, Patrick Mouyaya.
Justement, en revenant sur ces chiffres, et Ferdinand l'a dit tout à l'heure, il y avait des candidats, il y a deux candidats, il y en a plus de 33, et opter pour l'un ou l'autre nous fait remarquer, par exemple, qu'il y a des nettes améliorations dans le résultat. Tout à l'heure, je parlais des résultats de province du Kassai. Il faut dire qu'au premier tour, dans le Kassai oriental, c'est Joseph Kabila qui l'avait emporté sur le 33 candidats, mais les chiffres tels qu'est publié actuellement par la commission électorale indépendante, c'est plutôt le candidat de l'Union pour la Nation qu'il est. On peut se comprendre qu'il y a eu les fils de ces provinces qui ont joué fortement à sa place, les Lumbala, les Olingankoy, les Kassala et toutes les personnalités qui sont alignées, et en parlant du Kassai, présenté comme le bastion de l'UDPS qui serait exclu du processus du fait du président Kabila, d'après certains analystes.
Justement, nous avons en ligne au téléphone depuis Mbujimayi au Kassai oriental Herbert Kadiedien. Herbert, est-ce que vous pensez que les différentes alliances ont fait que l'un ou l'autre candidat améliore son score, notamment au Kassai oriental?
Au Kassai oriental, je vais dire non, particulièrement pour ce qui concerne la ville de Mbujimayi. Mais dans l'ensemble, quand je prends tous les Kassai, parce que j'ai quand même la possibilité de circuler dans tous les deux Kassai, je crois que ça a quand même joué au niveau des plateformes, parce que certains candidats ont battu campagne pour l'une comme pour l'autre plateforme. Ça a eu une incidence sur les résultats à ce second tour de l'élection présidentielle.
Le mercredi 8 novembre et le jeudi 10 novembre, le vice-président Jean-Pierre Bemba a adressé au total 3 lettres au président de la CEI pour dénoncer les irrégularités constatées dans la publication des résultats partiels au second tour. Eve Bazaïba, porte-parole de cette plateforme de soutien à la candidature de Jean-Pierre Bemba aussi, l'a dit au cours d'un point de presse tenu le mercredi dernier à Kinshasa. Eve Bazaïba a par ailleurs souligné que l'Union pour la Nation souhaite voir ces irrégularités corrigées avant la publication des résultats provisoires le 19 novembre prochain. Les propos d'Eve Bazaïba que nous allons écouter sont recueillis par notre confrère Innocent Olinga.
Nous avons essayé de vérifier ces résultats. Nous avons remarqué que quand les résultats sont publiés, ils ne sont pas conformes aux PV, les copies des PV à notre possession. Au niveau de Katanga, par exemple, lorsqu'on fait le calcul des résultats en annexe 0 par 0, le compte est bon. Par contre, quand on voit les résultats globaux, ça pose un problème des chiffres, soit en moins en ce qui concerne notre candidat Jean-Pierre Bemba Gombo, et en plus en ce qui concerne Joseph Kabila. Et on peut aller comme ça dans des détails. Pour le Bas-Congo, Kassai occidental, nous avons enregistré une perte de 179 voix. L'état actuel des résultats que nous avons obtenus est de 63 469 voix enregistrées. Notre souci, ce n'est pas le souci de dénoncer pour le bien de le faire, mais plutôt dénoncer maintenant avant le 19 pour le besoin de la correction, pour que nous puissions cheminer et à émettre sur la même longueur d'onde que la CEI.
Nancy Audier, est-ce que vous pensez que ces dénonciations sont fondées?
Sans froisser nos amis de l'autre camp, je pense que c'est quand même irresponsable, étant donné qu'ils sont en commission tripartite, ils ont leurs délégués au sein de cette commission qui siègent pratiquement tous les jours au niveau du Grand Hôtel Kinshasa autour de la CEI, la MONUC. Donc, s'il y avait des contestations à faire par rapport à des erreurs voulues matérielles, donc nos amis, les délégués de l'Union pour la Nation n'auraient eu qu'à soumettre ces contestations à la table de la réunion tripartite au lieu d'exposer cela au grand jour au cours d'un point de presse, et surtout que nous traversons une période plus ou moins chaude, comme qui dirait, une période où les gens ne savent pas ce qui va se passer précisément après la publication des élections. C'est même pour ça qu'on a interdit que les médias extrapolent ou donnent des chiffres, même additionnent les résultats publiés par la CEI, parce que les temps sont chauds. Et c'est quand même un peu irresponsable, parce que là, le peuple qui suit, ceux qui ont suivi ce point de presse auraient l'impression que il y a une discrimination en faveur de l'un des candidats, et que si on disait que ce candidat-là ne passait pas, et c'était qu'un exemple, ça pourrait susciter une certaine des soulèvements ou un mécontentement. Déjà, ça se manifeste à travers des tracts qu'on lance à travers la ville.
Mais qui ont été dénoncés, disons, qui ont été refutés complètement par les deux plateformes.
Oui, tout à fait, mais on ne sait pas qui. Mais en tout cas, c'est des tracts en faveur de l'un des candidats, comme quoi on aurait volé la victoire au peuple congolais. Et aussi, il y a des SMS qu'on ne cesse. Moi, j'en reçois au moins deux par jour, où on me dit c'est tel candidat qui gagne. Ça, c'est pas une bonne façon de faire, c'est de l'intox. Au grand jour, on signe des papiers, on se dit voilà, il faut pas qu'on soulève les gens, il faut passer par la Cour suprême s'il y a des contestations, mais sous coulisses, c'est des tracts, c'est des SMS, c'est de l'intox, et on ne sait pas à quoi ça va aboutir.
Nancy Odia, est-ce que le fait que les deux plateformes se réunissent avec la CEI et la MONUC chaque jour, est-ce que cela exclut qu'il puisse également que l'une des deux plateformes, si elle trouve qu'il y a des irrégularités, ne puisse les dénoncer?
C'est de bonne guerre, c'est aussi une bonne chose qu'on prenne le peuple congolais à témoin, ça nous le leur concédons, mais seulement du côté de l'AMP, parce que nous aussi, en tant que journalistes, nous avons eu à interroger les deux camps pour savoir si des parts et d'autres, il y a eu des irrégularités qui ont été dénoncées. À l'AMP également, ils disent avoir constaté des erreurs matérielles par-ci par-là où leur candidat aurait obtenu plus de voix, il y a eu des erreurs et ça a été corrigé au niveau de la commission.
Mais l'AMP ne semble pas l'avoir dénoncé publiquement.
Bah oui, justement parce qu'ils l'ont fait au niveau de la commission, parce que ça ne sert à rien d'alarmer le peuple, d'alarmer l'opinion, parce que le peuple congolais, il l'interprète parfois à sa manière. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de culture politique, mais seulement par ce temps qui court, même la petite information peut s'avérer être à l'origine de graves incidents. Donc il faut vraiment être prudent, surtout quand on passe à travers les médias.
Patrick Mouyaya, je rappelle que vous êtes directeur des informations de CBS, une chaîne de télévision émettant partie de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que l'Union pour la Nation, peut-être pour calmer le jeu, pour calmer la température politique ici à Kinshasa, toute cette pression qu'on ressent, aurait dû peut-être passer par cette commission à laquelle elle participe tous les jours avec la CEI et l'AMP, au lieu de les dénoncer, les irrégularités ou anomalies concernant dans les résultats?
Une chose est vraie, il faut apporter à la population l'information et à l'Union pour la Nation, on y a réfléchi. On y a réfléchi et on a estimé que le cas flagrant, par exemple, de fraude ou d'erreurs matérielles qui se sont glissées méritaient d'être dénoncées. Et de par là, les réactions qu'on en fait ou l'exploitation qu'on fait des informations qui peuvent s'avérer fondées, c'est là que peut poser problème. Mais moi, je voudrais revenir ici sur ce que Nancy disait tout à l'heure, en d'autres mots par exemple, mais il y a des précautions d'usage qui sont prises au niveau de la commission paritaire qui réunit AMPUN, Haute Autorité des Médias, CEI et MONUC. Au cours de ces concertations, le résultat qui doit être publiés, je présume, font partie des discussions, font partie des éléments qui sont discutés et que de ces faits, il existe comme un outil permanent de contestation de résultats. La commission électorale indépendante, dans son site, prend les soins de prévenir que les résultats publiés peuvent être entachés des erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées. Et certainement, dans ces cercles-là, dans ces cercles AMP, Union pour la Nation, commission électorale indépendante, la question est abordée et discuter et sur place, la commission électorale indépendante apporte des réponses claires pour l'une ou l'autre partie qui s'est sentirait lésée. L'exemple aujourd'hui, c'est que la commission électorale indépendante a dirigé une mission de contre-vérification des plaintes déposées par l'Union pour la Nation. La commission électorale a dépêché, je présume, si ma mémoire est bonne, à Chimboulou, dans la province du Kassai-Oriental, une autre commission pour attester ou pour revérifier le chiffre que conteste l'Union pour la Nation. Dès mon point de vue, le mécanisme d'usage, les précautions d'usage ont été prises de sorte que le résultat qui seront publiés par la commission électorale indépendante puisse être des résultats acceptés de tous. Et nous sommes pratiquement à mi-parcours et les incidents ou les erreurs relevées par le mouvement, par l'Union pour la Nation ne portent pas sur une grande partie des résultats. Ça concerne quelques petits bureaux, mais il n'y a pas de grande contestation susceptible d'entamer le résultat que pourrait publier la commission électorale indépendante à la fin de toute la compilation.
Herbert Kadiedien, mais est-ce que vous êtes d'avis que le fait qu'il y ait une concertation permanente entre les deux plateformes écarte tout danger qui est des irrégularités qui pourraient se glisser dans les résultats qui seront publiés par la CEI?
Non, je ne suis pas de cet avis-là. J'estime d'abord ici que la plateforme Union pour la Nation a fait usage de son droit, qu'elle reconnaît la loi électorale. Mais le problème, c'est au niveau de l'intention. On se pose quelques questions, c'est notamment celle de savoir si, dans cette démarche, l'Union pour la Nation veut tout simplement rétablir la vérité pour qu'in fine, le véritable résultat soit publié par la Commission électorale indépendante. Et on se pose la question de savoir si l'intention n'est pas de se chauffer les esprits, d'exploiter l'intox pour... On sait déjà qu'il y a une la pression en train de monter. Est-ce que c'est ça? La troisième question qu'on se poserait peut-être, c'est celle de savoir si, à ce niveau, comme Eve Bazaïda l'a indiqué, c'est tout simplement dans le souci de mettre sur la même longueur d'onde pour qu'à l'arrivée, le 19, quand la CEI va publier les résultats, qu'on n'assiste pas à des contestations fantaisistes. Si, c'est simplement pour ça. Je crois que la démarche est bonne puisque la loi l'autorise. Mais il faut aussi souligner que les deux plateformes ont eu leurs témoins. Elles sont plutôt en possession des documents physiques qui leur permettent de contrôler les documents.
Alors, à mon avis, ici, ce que la CEI doit faire, c'est de se montrer davantage coopérative, comme il existe cette commission paritaire pour voir si les irrégularités relevées du côté de l'UN comme du côté de l'AMP, si on peut les examiner et puis corriger si cela est fondé. Moi, je crois que à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça peut nous permettre d'atterrir en douceur d'ici les 19. Mais je crois qu'il ne suffit pas de faire confiance à ce dispositif, mais il suffit aussi de se référer aux témoins s'ils ont fait leur travail comme il se devait.
Ferdinand Ferrella, est-ce que vous pensez que la méthodologie utilisée par l'Union pour la Nation, qui consiste à dénoncer certaines anomalies, est une bonne méthodologie ou bien elle contient peut-être un risque de surchauffer les esprits?
Bah, je suis globalement d'accord avec ce que viennent dire les confrères et consoeurs. L'Union pour la Nation, la porte-parole, disait tout à l'heure que les résultats ne sont pas conformes aux copies des PV. Eh bien, l'Union par la Nation a ses copies, donc il suffit de les produire et la CEI a bien pris soin de dire que ces résultats étaient encore sujets à modification. Donc, toute la question, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de savoir si le camp Bemba parle d'erreur, d'irrégularité, ou alors s'il parle de fraude ou de tricherie, ce qui serait beaucoup plus grave. Et la lettre que Jean-Pierre Bemba a envoyée au président de la CEI semble indiquer qu'on parle plutôt de fraude et de tricherie. Alors, les erreurs, ça peut se corriger, les irrégularités, on peut en tenir compte dans le décompte final, mais comment est-ce qu'on traite la fraude et la tricherie? Et s'il y a eu fraude et tricherie, c'est par qui et en faveur de qui? Donc, c'est des questions qui sont beaucoup plus angoissantes.
Voilà, Nancy Odia, pensez-vous que ces anomalies constatées par l'Union pour la Nation sont des natures à remettre en cause la crédibilité même des résultats que publiera la Commission électorale indépendante?
Mais il faut arriver, je complète un peu, j'aborde un peu dans le même sens que notre confrère Ferdinand Ferrella. Voilà, mais il faut arriver à faire la démarcation entre les erreurs matérielles et aussi les irrégularités, peut-être ceux qu'ils appellent tentatives de fraude. Si c'est simplement des erreurs matérielles dont ils parlent, ça peut se corriger, il n'y a pas de problème. S'il y a plus de voix pour Jean-Pierre Bemba et moins pour Kabila par-ci par-là parce qu'il y a eu erreur, ça peut se rectifier. Il n'y a pas de problème, mais si c'est des irrégularités, comme j'ai suivi Madame Bazaïba qui parlait de personnes qui auraient voté par dérogation, elle parle de 18 000 personnes, rien que pour la ville de Goma. Bon, ça c'est un peu louche, c'est flou. Si c'est vrai que ce cas peut se vérifier, ça peut discréditer un peu tout ce qui a été fait, mais en général, il faut vraiment être assez fort pour arriver à établir cette démarcation entre fraude et erreur, tout simplement dû au fait que nous ne faisons qu'expérimenter des premières élections de ce genre.
Patrick Mouyaya, est-ce que vous pensez que l'Union pour la Nation a suffisamment de moyens? De quels moyens dispose-t-elle pour réparer ces anomalies constatées par elle?
L'Union pour la Nation dispose de moyens qui sont prévus par la loi, c'est-à-dire des dénoncés dans les cas échéants, c'est la commission électorale indépendante qui répare ou qui s'attelle à réparer là où il y a eu erreur, encore qu'il faut nuancer, fraude, irrégularité, capricherie et tout le reste. Mais je voudrais revenir ici sur une phrase que François Mamba a dite, alors que les mouvements de libéral, les présidents du MLC venaient d'adresser cette lettre à la commission électorale indépendante. Les écarts relevés ou les différences de chiffres constatées dans les PV des témoins du mouvement de libération du Congo, de l'Union pour la Nation, et les chiffres de la commission électorale indépendante n'étaient pas synonymes des tricheries. Et aujourd'hui nous sommes la date du jour, nous sommes les 9,
le 10.
Nous sommes le 10 novembre. Et nous sommes les 10 et vous conviendrez avec moi que la commission électorale indépendante a presque fini le travail de compilation et que si l'on a fixé la date de la publication de résultats au 19, l'on doit prendre toutes les précautions d'usage pour que ces résultats au moment de leur publication n'effacent pas l'appel d'une grande contestation. C'est-à-dire que dans la commission telle qu'est prévue, les résultats de la CI peuvent être discutés, contestés par les différents PV détenus par les deux états-majors politiques pour leur permettre d'avoir une idée plus ou moins claire sur tout le résultat. Le cas, je vais finir par ailleurs. Par là, les cas relevés tout à l'heure par Madame Bazaïba et dont on a parlé tout à l'heure, il faut voir dans les chiffres. Les élections présidentielles se jouent sur 2 millions. Et là, c'est sur 269.
Mais cette fois-ci, une seule voix peut faire la différence.
Une seule voix peut faire la différence, mais il faut voir la voix, d'où viendrait-elle. Et dans l'escarcelle de chaque candidat, 10 000 voix ou 5 000 voix, elle n'est serrée peut-être pas très significative, au point de remettre en cause les résultats qui pourront être publiés par la commission électorale indépendante. Toutes les voix comptent, tous les chiffres comptent, mais est-ce que puisqu'il y a une voix d'erreur retirée du côté du candidat Bemba ou deux voix d'erreur retirées du côté du candidat Kabila, cela devrait entamer tout le processus? Je ne pense pas, puisque dans le total général, il y a quand même une marge d'erreur qui est perçue à gauche, à droite. Dans certains pays, on accorde 3% au finish à chacun de candidats en considérant comme une marge d'erreur.
Nancy Audia, rapidement avant que nous donnions la parole à Herbert et à Ferdinand.
C'est vrai qu'il y a une marge d'erreur, peut-être qu'elle est très importante. Il faut relever quand même que la plupart, il y avait des bureaux où il n'y avait pas de témoins. Quand ils parlent des procès-verbaux, ils ont des centres de compilation, ils rassemblent les données par-ci, par-là. Mais c'est sur base de quel PV, parce qu'il y a même des témoins qui ont refusé de libérer les PV parce qu'ils n'ont pas été payés. Et donc ça, c'est notre problème.
Herbert Kadiedem, vous intervenez à partir de Mbujima. Est-ce que vous pensez que les Congolais ont suffisamment tiré de leçons pour éviter notamment les problèmes qu'il y a eu du 20 au 22 août dernier?
Oui, d'abord, la possibilité que la CIA a offert à tout le monde de savoir comment la compilation est en train de se faire et jusqu'au dernier aujourd'hui, ça permet à tous les Congolais d'accéder directement à l'information et de voir comment les choses se font. Tout à l'heure, Nancy disait que c'était pas très bien que l'Union pour la Nation organise une conférence de presse pour évoquer le cas des irrégularités. Mais moi, j'ai peut-être un avis contraire parce que déjà, on a privé la population congolaise, on avait plutôt pris la précaution pour priver la population congolaise l'information par rapport aux tendances. Mais la CI a pris notre précaution en publiant les résultats. Le peuple congolais sait comment on avance et la compilation est en train de se faire. On a l'information avant les 19. Je crois que l'opinion aura déjà une information à prendre, bien sûr, au conditionnel pour savoir qui présidera aux destinées de la République démocratique du Congo pour la Troisième République. Mais pour ce qui est de ces irrégularités,
rapidement, s'il vous plaît.
Il me paraît important qu'à ce niveau, que la population congolaise soit quand même informée. Qu'il y ait irrégularité, qu'il y ait une commission paritaire qui traite de ce problème, mais au moins que l'information soit connue, qu'on sache que l'Union pour la Nation a relevé des irrégularités à gauche, ça a été examiné, la suite qui a été réservée par la CI, c'est telle suite. Et il en est de même pour l'AMP. Moi, je crois que là, il n'y a pas tellement d'inconvénients si les choses sont fondées. Je donne l'exemple de tout à l'heure, l'exemple des 18 000 cas de dérogation à Goma. Mais écoutez, tout le monde en parle, l'opinion trouve que c'est pas normal quelque part, il faut une clarification. Mais une information comme ça, il ne faut pas attendre qu'il soit traité au niveau de la commission paritaire pour qu'on soit informé.
On doit savoir qu'il y a un problème, posé, et les éléments de réponse qu'on y apporte sont tels et sont de telle nature, est-ce que satisfaisant, quelle est la lumière qui a été faite.
Oui, merci.
Ça, c'est mon point de vue.
Merci, Herbert. Ferdinand Ferrelet, est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, exactement. Donc, je vais vous donner l'exemple des États-Unis, hein, qui ont eu aussi cette semaine des élections. C'était pas des élections présidentielles, mais c'était des élections parlementaires qu'on appelle à mi-mandat. Et on a parlé ici aussi, dans quelques États, d'irrégularités, d'erreurs qu'ont pu se produire, surtout quand le vote était extrêmement serré. Mais vous avez vu que dès le lendemain du vote, le président George Bush a reconnu qu'il avait subi une défaite cuisante et il a félicité ses adversaires pour la façon dont ils avaient mené leur campagne. Tout près d'ici, en Virginie, c'était un État très important pour le contrôle du Sénat. L'écart des voix était très faible, 6 à 7 000, je crois, entre les deux candidats. Et dans un premier temps, on a cru que le candidat républicain qui était mené allait contester les résultats ou au moins allait demander un nouveau décompte. Et finalement, lui-même a reconnu sa défaite hier. Et donc, on sait maintenant que les deux chambres du Congrès seront contrôlées par des démocrates. Donc des erreurs, des irrégularités, il y en a partout dans le monde et aucun système n'est parfait. Et encore une fois, toute la question est de savoir comment on gère ces erreurs, comment on y remédie. Et comment on les évalue par rapport au résultat final. Parce que si le résultat final, effectivement, donne un large écart entre les deux candidats, on dira que les 18 000 voix, ma foi, de Goma, ça n'aura pas pesé très lourd. Par contre, si l'écart devait être très faible, là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui irrégularité ou anomalie pourrait s'appeler par d'autres noms qui ouvriraient la voie à des contestations.
Nous passons directement à la troisième partie de cette émission. Les audiences de confirmation de charges ou accusations contre Thomas Lubanga ont commencé hier à La Haye, aux Pays-Bas, pour le gouvernement congolais. D'après Mova Sakani, porte-parole du gouvernement, le gouvernement congolais n'a plus son mot à dire dans le déroulement du procès de Thomas Lubanga. Selon le ministre de l'Information, maintenant il relève de la justice internationale de faire son travail et de reconnaître ou non la culpabilité de Thomas Lubanga. Le ministre Mova Sakani émet cependant l'espoir que la Cour pénale internationale s'intéresserait également à d'autres Congolais auteurs de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Mova Sakani a été joint au téléphone par notre consoeur Broy Munganga.
Nous avons l'espoir que dans le box des accusés ne restera pas éternellement que Thomas Lubanga. Il y a bien d'autres gros poissons. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont sous les verrous, qui sont en prison. Il y en a qui courent encore les rues. Il y en a qui sont à d'autres niveaux. Hein. C'est des notoriétés publiques. Je n'accuse personne, mais vous le savez, les touristes dans son ensemble fait déjà partie de la première portion de territoire du Congo qui intéresse les juges. Mais il y a bien d'autres secteurs hein, qui impliquent un certain nombre de Congolais, donc on ne peut pas se le cacher. Le procureur sera appelé un jour à connaître de tous ces crimes et certains des Congolais, autres que Thomas Lubanga, auraient à se justifier devant cette cour.
Monsieur Mova Sakani, vous voulez nous dire par là que le Congo est prêt à mettre à la disposition de la Cour pénale internationale toute personne qui serait poursuivie par cette cour?
Effectivement, madame. En signant la charte, nous connaissions les articles de la charte. C'est que même les fonctions, même la qualité officielle que vous avez, ne créent pas des immunités ni des privilèges par rapport à la cour. Donc, la cour est compétente même pour ceux qui sont revêtus de la puissance publique. C'est dans les autres juridictions, on pouvait dire, tel ou tel ne sont pas justiciables devant telle ou telle autre catégorie de tribunaux. La particularité de la Cour, c'est que la fonction officielle disparaît lorsque la personne concernée est mise en accusation. Et donc, s'il arrivait qu'un officiel est appelé à être jugé par la Cour, du fait de la signature du Congo, c'est que nous savions ce qu'il y avait dans la charte, et nous avons donc accepté que nos officiels puissent être justiciables devant cette cour lorsqu'ils ont commis des crimes internationaux.
Nancy Audien, le ministre, nous venions là d'entendre le porte-parole du gouvernement, M. Henri Mova Sakani. Est-ce que vous êtes comment réagissez-vous face à la faisabilité de déclaration du ministre, par exemple qu'un officiel congolais soit inculpé par la CPI et que le gouvernement soit disposé à livrer cette personne, excusez-moi d'employer ce terme, à la justice internationale?
Mais si la personne bénéficie déjà d'une certaine immunité, comment faire? puisqu'il y a eu des élections, il y en a qui sont députés, qui seront sénateurs, qui seront gouverneurs par-ci par-là, qui seront ministres, qui seront au plus haut niveau de la gestion du pays. Comment arriver à appliquer ce qui est dit là? Mais c'est vrai que j'ai suivi aussi Human Rights Watch qui révèle qu'il y a une vingtaine d'acteurs politiques congolais et chefs de milice qui se retrouvent sur la liste des prochaines personnes qui seront à la barre de la Cour pénale internationale, mais qui sont sur cette liste. Et puis, on a suivi, les deux candidats ont signé ce qu'ils appellent le statut du vaincu, et ils s'assurent mutuellement la sécurité, c'est-à-dire que ceux qui sont au second tour de la présidentielle, déjà, sont garantis d'une certaine impunité, ok, s'il n'y a rien à faire, puisqu'il y a des statuts qui sont signés, à moins que Patrick et mes autres confrères ne me contredisent, mais déjà, c'est difficile de ce côté-là. Quand on, ça aurait pu, s'il y avait eu une, le comité de la CVR avait fait son travail pour déjà arriver à établir les responsabilités par rapport aux crimes de guerre et consorts, crimes contre l'humanité, on aurait peut-être déclassé les candidatures de certaines personnes de manière qu'ils ne se retrouvent pas au pouvoir, et ça aurait été plus facile pour la CPI.
Patrick Mouyaya, est-ce que d'ailleurs le procureur lui-même au Campos avait dit que Thomas Lubanga est le premier, mais il n'est pas le dernier. Est-ce que cela ne pourrait pas troubler la jeune démocratie qui est en train de se construire en RDC?
Je ne pense pas. Et là, je veux peut-être contredire Nancy. Devant la Cour pénale internationale, on n'a pas besoin d'être ministre ou d'être un ambassadeur pour qu'on soit protégé. La Cour pénale internationale, la pression justement sur les quelconques immunités qu'on puisse avoir, fut-il du pouvoir public ou pas, quand vous êtes passible des crimes devant la Cour pénale internationale, on met la main sur vous. La liste doit être naturellement être longue. Ce qui s'est passé en Ituri, Thomas Lubanga n'était pas les seuls acteurs impliqués, et que de ces faits, puisque la République démocratique du Congo a librement souscrit à la charte créant la Cour pénale internationale, et que de ces faits, puisqu'il faut respecter les engagements signés dès qu'un Congolais est cité pour avoir commis des crimes contre l'humanité, je vois pas pourquoi on le protégerait. La démocratie ne suppose pas impunité, et que l'émergence de la démocratie suppose aussi une justice qui assure la réparation aux préjudices causés par des millions de Congolais, il faut le dire, qui ont fait les frais au cours de cette guerre qui s'est achevée, ou peut-être pas encore, dans certains coins du pays.
Herbert Kadiediem, qu'attendent réellement les Congolais de ce procès Thomas Lubanga?
Moi, ce qui me plaît, c'est d'abord l'approche pédagogique, hein, pour que les opérateurs politiques congolais comprennent que si aujourd'hui ils se plaisent à enrôler des enfants, à poser des actes qui sont contraires à la loi, ils ne resteront pas impunis désormais. C'est l'approche pédagogique qui me plaît dans tout ça. Mais je voudrais aussi souligner que, heureusement que le procureur l'a dit, Thomas Lubanga est le premier, la liste sera longue. Désormais, les opérateurs politiques congolais feront très attention avant de prendre une décision quelconque pour atteindre leurs objectifs. J'espère d'ailleurs qu'il n'y aura plus de rébellion dans ce pays pour qu'on revive des choses comme ça.
Ferdinand Ferrella, est-ce que vous pensez que si le gouvernement congolais est prêt, d'après Mova Sakani, la CPI avec les millions de dollars qu'elle a pour son fonctionnement pourrait avancer un peu plus rapidement, ou on assistera à la même scène comme celle avec les autres tribunaux pénaux internationaux?
Oui, non, je crois pas que la CPI avance moins vite que le TPI hier ou que le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Hein. Rappelez-vous que le gouvernement de Kigali a accusé plusieurs fois le tribunal Arusha de traîner les pieds, et on a adressé pas mal de critiques à ce tribunal en ce qui concerne le rythme auquel il a traité les dossiers, à tel point qu'il a été obligé de se décharger de certains procès pour les remettre à des juridictions nationales. De même pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, rappelez-vous que Milosevic est mort en prison avant même que son procès se soit achevé. Donc je crois que c'est un petit peu normal que la justice prenne son temps pour être sereine. Par contre, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est fondamental. J'ai eu l'occasion de parler cette semaine à des représentants des milieux des droits de l'homme dans l'Ituri, qui tous disent la même chose. Hein. Thomas Lubanga, oui, c'est important qu'il soit jugé, c'est un bon premier pas, mais il est loin d'être le seul à avoir recruté des enfants soldats, puisque c'est de ça dont il s'agit. Toutes les milices, ont recruté des enfants soldats, et pas seulement les milices. Rappelez-vous que parmi les ex-belligérants, il y avait également des enfants soldats,
Et vous savez que ces ex-belligérants ont leurs représentants, certains de leurs représentants aujourd'hui, même dans l'espace présidentiel. Donc ça, il faut s'en souvenir. Il faut aussi souligner ce qu'a dit le confrère tout à l'heure. C'est vrai que la juridiction de la Cour pénale internationale n'est pas rétroactive. On ne peut pas s'intéresser à ce qui s'est passé avant 2002. Mais par contre, il serait important que la RDC, elle, peut-être s'intéresse à ce qui s'est passé avant 2002. Parce que entre 1996 et 2002, il y a eu 6 années de guerre pendant lesquelles des crimes ont été commis, et pas seulement par des Congolais, vous le savez, il y avait une demi-douzaine d'armées étrangères qui étaient impliquées dans ces deux conflits sur le sol congolais. Donc un jour, il faudra faire la lumière également sur tous ces événements, et ça peut se faire au niveau international, je crois que ce serait souhaitable, mais au niveau intérieur en RDC, il faudrait songer aussi à créer quelque chose qui ressemblerait à une commission vérité et réconciliation pour que véritablement tout soit dit sur ces années sombres de l'histoire de la République démocratique du Congo.
Fin de cette émission. Au revoir et bon week-end.